Un homme armé d'un couteau maîtrisé hier par les agents de la police municipale à Lens-Vatat. Le syndicat Alliance réclame une évolution du statut de la police municipale en Calédonie. Des conditions de travail et d'accueil des élèves pas à la hauteur. Le personnel du lycée Escoffier est en grève aujourd'hui pour réclamer des actions concrètes d'amélioration. Project Freedom, c'est l'opération militaire lancée par Donald Trump la nuit dernière pour nous. Il veut débloquer le détroit d'Ormuz. La croisière tourne au cauchemar pour les passagers du MV Ondus. Ils sont confinés à bord au large du Cap-Vert après la découverte d'un foyer d'antivirus à bord qui a déjà fait 3 morts. Et puis en sport, ce sera l'une des attractions du prochain Tour de France. Cycliste Paul Sexas, auteur d'un début de saison tonitruant chez les pros, a annoncé sa participation à la prochaine grande boucle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera avec le magazine Citoyen comme tous les mardis. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Baudin.
Et cette semaine avec vos invités, vous parlerez des enjeux de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes.
Oui, et notamment à travers le braille. Hein. Pour en parler, nous recevrons Christelle Masseglia, directrice du service d'accompagnement social pour l'autonomisation et l'inclusion des déficients visuels. Jean-Yves Botteau, qui est enseignant référent au vice-rectorat spécialisé pour les élèves malvoyants et aveugles. Jérôme Kiosson, qui est technicien. Il vient d'être formé d'ailleurs à la réparation des machines Perkins, des machines qui servent à écrire le braille. Et puis Marie-Angèle, qui est bénéficiaire de l'association Valentin. Oui, rendez-vous donc à la fin de votre journal.
Une intervention peu ordinaire hier matin pour les policiers municipaux de Nouméa. Ils ont interpellé un homme armé d'un couteau à viande. Le syndicat Alliance Police salue le professionnalisme des agents, mais il demande aussi l'évolution du statut de la police municipale en Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Oui, alors tout d'abord vers 7h. C'était donc hier, l'individu perturbait la circulation, mais aussi les activités commerciales autour de l'immeuble Le Commodore à Lens-Vatat. Lors de l'interpellation, l'individu a agressé les agents avant d'être maîtrisé sans faire de blessés. Une issue qui témoigne selon Vaslav Lebovic, référent territorial du syndicat Alliance Police Nationale Police Municipale, du professionnalisme des agents.
À la base, en fait, c'est une intervention qui a été envoyée par notre centre de commandement, donc pour une personne qui perturbait la bonne marche des commerces, qui errait. Et donc, quand il se présente sur les lieux, en fait, il tombe nez à nez avec un individu porteur d'une arme blanche et agressive qui voulait en découdre, quoi. Donc eux, ils ont réussi à le maîtriser et puis à l'interpeller afin de le transporter jusqu'au central de la police nationale pour son placement en garde à vue.
L'individu a donc été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Intervention à qui, toujours selon Vaslav Lebovic, relève au regard de la législation des forces de sécurité intérieure, police nationale ou gendarmerie nationale, des agents mieux préparés et plus équipés.
C'était plus une intervention sans grand risque qui est devenue une intervention très dangereuse. Sachant que les collègues sont armés d'armes intermédiaires, hein, ou ce qu'on appelle les fameux LBD, lanceurs de balles de défense, et le pistolet à impulsion électrique. Mais face à une arme blanche, ces armes ne sont pas suffisantes en fonction du contexte et de la situation. Et ça aurait pu aller jusqu'au péril de leur vie. À un moment donné, quand vous êtes primo-intervenant en tant que policier municipal, vous n'avez pas le choix, vous devez désamorcer la situation. On est de plus en plus exposé à des dangers liés à notre intégrité physique. Et le cas échéant, à un moment donné, il va arriver un drame, c'est sûr et certain. Soit un collègue qui sera déjà blessé dans un premier temps, léger ou grave, et puis quid de la mort.
Et pour faire face à une recrudescence de la délinquance, le syndicat Alliance Police demande davantage de moyens, mais aussi une adaptation du cadre d'action de la police municipale en Nouvelle-Calédonie.
Ce qu'on demande clairement, c'est l'évolution du statut de la police municipale en Nouvelle-Calédonie, la filière sécurité. Et également notre volet social, c'est-à-dire qui est inchangé depuis 1994 concernant l'augmentation des prérogatives, des missions qui nous sont dévolues. Et on voit que la délinquance, elle ne fait que d'augmenter, la criminalité, etc. Sauf que ça ne suit pas derrière concernant nos conditions sociales au travail, quoi. C'est comme si ni plus ni moins demain vous êtes serveur dans un restaurant, puis maintenant le patron il vous demande de faire la plonge, la cuisine, enfin voilà, d'être au four et au moulin, alors que vous touchez le même salaire, quoi, et qui n'est plus en adéquation non plus avec l'inflation et le coût de la vie actuel.
Ces derniers jours, les responsables du syndicat Alliance en Nouvelle-Calédonie ont pu exposer leurs revendications au député Nicolas Metzdorf dans l'espoir que les dossiers locaux soient portés au plus haut niveau national.
Un ras-le-bol généralisé aujourd'hui au lycée professionnel Escoffier de Nouméa. Au moins 80% du personnel de cet établissement commercial et hôtelier est en grève. Les professeurs et agents protestent contre des conditions de travail et d'accueil des élèves qu'ils jugent dégradées depuis de nombreuses années, Charlotte Coulson.
Pas de toilettes, pas de dignité, éducation sacrifiée, élèves méprisés. Ce sont quelques messages que l'on peut lire sur les banderoles tendues devant le lycée Escoffier aujourd'hui. L'USTKE, l'UTCFECGC, la FEDE et FO sont mobilisés. À l'origine l'origine des protestations, un ras-le-bol. Les enseignants en ont marre de voir leurs élèves sortir pour manger, pour boire ou simplement pour aller aux toilettes. Écoutez le témoignage de ces élèves de première année du lycée Escoffier. De première.
Les toilettes, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de savon et les portes, elles sont cassées. On ne peut pas fermer à clé.
Il y a l'eau des toilettes, genre pour boire. Ben, des fois, elle est blanche. Genre, c'est pas potable tous les jours.
La majorité du temps, on part à l'infirmerie, on trouve une excuse pour aller aux toilettes, confortablement et en sécurité aussi.
Nous, on est obligés d'aller chercher au snack là-bas pour aller chercher des bouteilles d'eau ou aller aux toilettes de la station.
Vous sortez de l'établissement. Est-ce que des fois, ça vous arrive de sortir pour aller aux toilettes ou quoi et en fait, vous revenez pas forcément en cours?
Oui. Ça nous arrive comme après, ben ça sonne déjà, puis ils nous accèdent pas au portail.
Et la cantine, c'est au Laperouse. Ben déjà, on n'est pas prioritaire. On doit attendre, sachant que nous, on finit à midi, on reprend à une heure et on n'a pas le temps. Et soit on loupe un cours, ou soit on mange pas à la cantine.
Sauter un cours ou sauter un repas, les élèves du lycée professionnel doivent choisir car ils n'ont que 500 places dédiées à la cantine du Laperouse, alors qu'ils sont près de 1200. Face à cette situation, les professeurs ne veulent pas rester inactifs, comme Séverine Campaméru qui enseigne depuis 18 ans au lycée Escoffier et manifestée ce matin devant l'établissement.
Alors les conditions de travail sont très difficiles, on a des salles qui sont dans un état déplorable, notamment les Algeco que vous avez là-bas, c'était du provisoire, ça fait plus de 18 ans que ça dure, elles prennent l'eau, quand il pleut l'eau pénètre à l'intérieur des salles, et puis l'odeur parce que ça ne sèche pas, donc il y a des collègues qui prennent même des antihistaminiques avant d'aller faire cours, c'est très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué de voir nos élèves accueillis comme ça, parce que ce sont des élèves qui sont méritants, venir à 5h, 7h le matin et puis tenir jusqu'à 5h le soir et sans avoir déjeuné et être aussi présent. Donc quand on nous parle de lutte contre l'absentéisme, ben pour lutter contre l'absentéisme, la première chose à faire, c'est d'offrir un cadre de travail digne à nos élèves.
Et cette colère est entretenue par des promesses non tenues, nous dit Fabienne Cadoca, la secrétaire générale du SFP au sein de l'UTCFECGC. Un contrat de développement a été signé en 2020, censé débloquer une enveloppe de 600 millions de francs pour la rénovation de l'établissement. Mais le personnel du lycée l'attend toujours.
Il y a eu des comités de pilotage, ils ont eu des super plans avec voilà tout rénové, les toilettes, les vestiaires EPS, la salle des profs, la vie scolaire. Enfin, on leur a vendu du rêve en gros. Et puis pour qu'au final, on leur dise, ben non, malheureusement, on a perdu les sous. Quand c'est qu'un contrat de développement, il y a un délai pour utiliser cette somme d'argent. Sauf que la Calédonie ne l'a pas utilisé dans les temps. Donc automatiquement, l'État a récupéré 550 millions parce qu'il n'y avait que 50 millions qui avaient été utilisés. Et forcément, cet argent-là a été mis ailleurs. Donc aujourd'hui, on nous a promis une enveloppe de 1 milliard juste pour le lycée Escoffier, mais nous, tant qu'on n'a pas un écrit, tant qu'on n'a pas un calendrier bien précis, on ne peut pas se contenter de promesses. Ils n'en peuvent plus de ces promesses qui ne sont pas tenues.
L'intersyndicale a déposé un cahier de doléances hier lors d'une réunion avec les représentants du gouvernement et du vice-rectorat.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier et 52% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne comprennent pas qu'Enercal n'arrive pas à stabiliser et sécuriser le réseau électrique. Ils sont 48% à dire à l'inverse qu'ils le comprennent. Et puis voici notre question du jour. Après l'agression d'un arbitre samedi lors du match de football Lossy Horizon Sport, faut-il selon vous radier à vie les sportifs coupables d'agression contre des arbitres? Si vous pensez qu'il faut les radier à vie, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Avant de marquer une première pause, ce voyage qui interpelle, celui d'une délégation du FLNKS conduite par son président Christian Théin au Vanuatu. Officiellement, il s'agit d'une mission commerciale et d'investissement en Nouvelle-Calédonie qui doit se concentrer sur le renforcement des partenariats commerciaux et sur l'ouverture de nouvelles possibilités d'investissement dans les secteurs clés. Cette délégation d'une vingtaine de personnes comprend le membre du gouvernement Michael Forest, mais aussi des élus comme Sylvain Pabouti et Omera Neslin, ainsi que le maire de Lifou, Pierre Roaezé, et ils sont accompagnés de chefs d'entreprise. Ils ont été accueillis à Port-Vila par plusieurs personnalités du Vanuatu et cela suscite une très vive réaction du député Nicolas Metzdorf, qui écrit sur sa page Facebook, et je cite, « que le Vanuatu se fout ouvertement de nous. Il reproche à notre plus proche voisin de continuer à s'immiscer dans la politique intérieure du territoire en invitant le président du FLNKS à conduire une délégation économique, entre guillemets, en vue d'une coopération avec la Nouvelle-Calédonie. Le député de la première circonscription indique qu'il va écrire à l'ambassadeur de France au Vanuatu pour que la lumière soit faite sur cette manipulation grossière. 11h40, une première pause dans ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie. À Dumbéa, une centaine d'élèves désignés et délégués de leur classe cette année sont réunis aujourd'hui pour une journée spéciale placée, Léana Colombo, sous le signe de la cohésion et de la citoyenneté.
Ambiance studieuse mais détendue ce matin au Parc Fayard. Répartis par groupe de 20, les élèves de 6e et de 5e vont enchaîner les ateliers jusqu'à cet après-midi pour mieux comprendre leur rôle de délégué. Une formation hors les murs organisée depuis 2023 et encadrée par 4 conseillers principaux d'éducation, 5 adjoints d'éducation et une infirmière scolaire. Livia Gervolino, conseillère principale d'éducation au collège de Dumbéa-sur-Mer.
L'idée, c'était de mutualiser un petit peu nos forces entre CPE et de faire de la cohésion entre les collèges de la zone, parce qu'on se retrouvait face à des problématiques, parfois un petit peu des histoires entre nos élèves, un petit peu de violence, parfois des élèves qui se retrouvent. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait créer un petit peu de cohésion entre nous et puis de montrer un petit peu que chez l'autre, l'herbe n'est pas plus verte, que dans les autres collèges, il y a aussi un carnet de correspondance, il y a aussi un règlement intérieur. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être que les délégués qui viennent et pas l'ensemble de nos établissements, mais clairement, on a vu une différence où on a eu des climats scolaires qui ont été plus apaisés et on a eu des projets qui ont été beaucoup plus construits derrière parce que en étant 4-5 CPE, on a pu avoir vraiment des idées très riches et des projets qui sont sortis de ces journées-là.
Prise de parole, écoute des autres, travail en équipe, autant de compétences essentielles que ces jeunes collégiens expérimentent tout au long de la journée au travers de 5 ateliers que semblent apprécier les participants.
Je rencontre plein de personnes que je connaissais pas. Ça va m'apprendre à les connaître, à partager avec eux, travailler en équipe.
On va faire une formation déléguée, après on va faire du gel blaster et l'après-midi on va faire du sport.
On peut se faire de nouveaux amis, on peut rencontrer des gens, on peut profiter avec eux.
Là on fait un atelier gestion des conflits et médiation. On a des énigmes, c'est comme un escape game. Ça nous fait apprendre qu'est-ce qu'il faut comme conflit, faut faire quoi, faut dire quoi, faut expliquer comment.
On fait un atelier sur des questions de situations qui peuvent se passer et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider les personnes qui sont confrontées à ces situations ou qui sont en danger peut-être de cyberharcèlement ou des trucs comme ça.
Moi je suis contente d'être là parce qu'on peut apprendre à aider certaines personnes. On peut être là pour apprendre de nouvelles choses aussi.
Le côté sportif et la cohésion d'équipe n'ont pas été oubliés pour cette journée puisque les collégiens pouvaient également s'essayer à des sessions de gel blaster avec des pistolets équipés de billes biodégradables. Cet après-midi, place à un tournoi sportif intercollège avant la fin de la formation prévue aux alentours de 15h.
La province Sud relance son budget participatif. C'est la 6e édition de Mon idée pour ma province qui permet aux associations, aux structures de l'économie sociale et solidaire de proposer un projet d'utilité publique que la province accompagne et finance jusqu'à 80% du montant global. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi de répondre à leurs préoccupations du quotidien. Marion Bastogi est chargée de mission à la province Sud.
On est sur des projets d'intérêt général, utiles à la population, qui rentrent bien sûr dans le champ de compétences des provinces. Pour rappel, les grandes thématiques, la santé, la solidarité, l'action sociale, la culture, la jeunesse, bien sûr, le sport, l'environnement. Donc, ce sont des projets qui vont permettre de répondre au plus près aux besoins de la population, qui peuvent être réalisés à plus ou moins court terme, c'est-à-dire sur 2 ans, et qui ne vont pas entraîner, par contre, des dépenses de fonctionnement pour la collectivité, puisqu'on est vraiment sur le financement de l'investissement. On peut dire que c'est une réussite, c'est un dispositif qui a un vif succès, pour plusieurs raisons. On le sait, aujourd'hui, les collectivités collectivités ont moins de financement, notamment en matière de fonctionnement. Donc c'est vrai que de pouvoir les aider grâce à notre budget d'investissement, c'est une occasion pour les associations de mener de nouveaux projets. Et ensuite, c'est vraiment un dispositif qui permet de répondre aux besoins du quotidien des habitants de la province sud.
Tout le monde peut donc déposer un dossier qui sera ensuite instruit à la province sud et soumis au vote des habitants.
Tout citoyen de plus de 12 ans peut également déposer un projet et j'en profite pour lancer justement un appel aux jeunes de ne pas hésiter à déposer leur projet. C'est vrai que ça nous intéresse d'avoir leur vision, leur créativité, de connaître leurs besoins et la spécificité de ce dispositif, c'est justement d'accompagner le citoyen dans la réalisation de son projet. Ce qu'on souhaite via ce dispositif, c'est permettre aux citoyens de rencontrer l'expertise technique des services provinciaux. Il y a vraiment une co-construction du projet tout au long du processus.
Les dossiers sont à déposer jusqu'au 19 juillet. Le vote des habitants de la province sud aura lieu du 14 septembre au 8 novembre. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la province ou alors en appelant le 20 31 09. Vous pouvez aussi retrouver cette interview de Marion Bastogi sur notre site internet. Elle était notre invitée ce matin. En bref, le centre hospitalier du Nord à Point-d'Imy annonce la réouverture de 14 lits d'hospitalisation de soins de suite polyvalents. Elle se fera avec une montée en charge progressive. Il indique par ailleurs que les consultations médicales et les soins externes infirmiers sont maintenus aux jours et heures habituels. Pour les urgences, en revanche, le CHN de Point-d'Imy invite la population à contacter le SAMU au 15 ou alors à se rendre directement aux urgences du pôle sanitaire de Conné. Et puis notez que l'association citoyen Mondorien tient son assemblée générale ce soir. Les sympathisants se retrouveront à 18h15 à la salle des communautés du Vallon d'Or. Une assemblée générale ordinaire avec bilan moral et financier. Mais les membres de l'association étudieront aussi les perspectives d'action pour l'année 2026. Il est 11h47, une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et à l'étranger où l'opération Project Freedom a été lancée par les Américains au détroit d'Ormuz. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une puissance électrique adaptée, c'est des économies. Si votre abonnement est trop fort, vous payez trop. Choisissez la puissance qui correspond vraiment à vos usages. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole et dans le monde avec Jean-François Bodin.
Rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Les USA ont lancé la nuit dernière pour nous l'opération Project Freedom. Des navires américains sont déployés pour accompagner les navires marchands. Les opérations militaires ont donc repris. Charles Bouchin pour Europe 1.
Donald Trump affirme que son armée a détruit 6 petites embarcations iraniennes. Les Américains auraient également intercepté des missiles de croisière iraniens et des drones tirés par Téhéran. Des affirmations immédiatement démenties par l'Iran. Le détroit d'Ormuz s'embrase à nouveau après le lancement aujourd'hui du projet Liberté de Donald Trump. Une mission qui vise à libérer des navires commerciaux bloqués dans le Golfe. Pour le moment, l'armée américaine accompagne les navires commerciaux à distance, explique l'ancien colonel Pierre de Jong.
Les bateaux sont assez autonomes et en fait, on leur donne de l'information, on les protège à distance. Évidemment, les Américains vont mettre en place un système de bâtiments qui serait réparti tout le long de l'itinéraire, qui éventuellement pourrait intervenir contre les Iraniens.
Des Iraniens qui auraient plus tôt dans la journée lancé des missiles en direction de plusieurs frégates américaines. Aucun bateau ne serait touché. Les Émirats arabes unis font également état d'une frappe iranienne sur un de leurs sites pétroliers. Une attaque qui a fait 3 blessés.
Et ce regain de tension a évidemment un impact immédiat sur le coût du pétrole. Le prix du baril de Brent est reparti à la hausse et affiche environ 113 $. La crise énergétique ne doit enrichir personne, a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui annonce que la TVA sur les produits pétroliers a permis à l'État de dégager 190 millions d'euros ces derniers mois depuis le début de la guerre. De l'argent qui sera réparti pour des aides déjà annoncées, a précisé Sébastien Lecornu. Autre guerre en Ukraine avec cette proposition de trêve émanant de la Russie. Vladimir Poutine propose un arrêt des combats les 8 et 9 mai pour célébrer la victoire en 1945 des soviétiques sur l'armée nazie. Et puis à Leipzig, en Allemagne, un homme fonce avec sa voiture sur des piétons dans le centre-ville historique. Il a tué deux personnes avant d'être arrêté par la police allemande. À ce stade, impossible de connaître les motivations de cet homme. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette croisière qui vire au cauchemar. Les passagers du MV Ondus sont confinés dans leur cabine depuis plusieurs jours, alors que le bateau est au mouillage au large du Cap-Vert. Parti il y a 3 semaines d'Ushuaïa, un foyer d'infection à l'antivirus a déjà fait plusieurs victimes. Laura Legault pour Europe 1.
Le 11 avril, un passager néerlandais de 70 ans décède à bord. Son corps est débarqué à Sainte-Hélène. Sa femme l'accompagnait. 2 semaines plus tard, elle meurt dans un hôpital d'Afrique du Sud. Le 2 mai, un troisième passager allemand décède. Son corps serait toujours à bord. La cause des 3 décès reste inconnue. Mais un passager britannique hospitalisé en soins intensifs en Afrique du Sud est porteur d'une variante d'antivirus. 2 membres d'équipage à bord présentent eux aussi des symptômes. Conséquence, les passagers sont isolés. Et certains cèdent à la panique, comme cet influenceur américain en pleure dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.
Ce qui se passe actuellement est très réel pour nous tous. Nous sommes des gens avec des vies et des familles qui nous attendent à la maison. Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est ce qui est le plus difficile. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer chez nous.
Le bateau devait accoster au Cap-Vert, mais les autorités sanitaires du pays ont refusé pour protéger la population locale. L'OMS tempère, aucune raison de céder à la panique, déclare le directeur de l'agence. Le navire pourrait se diriger vers les Canaries pour débarquer ses passagers.
En métropole, c'est la nuit prochaine que le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public sera publié. Il comporte 81 propositions, dont certaines ont été rendues publiques, comme le souhait de fusionner France 2 et France 5 ou encore de changer le mode de désignation des responsables de l'audiovisuel public. Politique, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui pose un cas de conscience à la gauche. En annonçant hier qu'il était candidat pour l'élection 2027, le leader de la France insoumise a pris de vitesse les autres partis de gauche. Il y a bien sûr une stratégie derrière, celle de tenter de s'imposer comme le seul candidat crédible à gauche, Arthur Delaborde.
Jean-Luc Mélenchon prend de l'avance, il déroule en terrain conquis. Chez les Insoumis, la ligne est claire, un chef, un programme, un candidat.
Nous sommes à moins d'un an du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quoi ? Les divisions internes dans les partis font qu'il y a une multitude de candidatures et c'est la confusion. C'est irresponsable. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat.
Et pendant que le reste de la gauche se déchire sur la méthode, Jean-Luc Mélenchon, lui, est déjà en ordre de marche. Ses rivaux se cherchent encore un candidat. Lui se projette déjà en duel face au RN. Mais les critiques pleuvent. Le socialiste Olivier Faure prévient. Le chef de file des Insoumis ferait perdre la gauche de manière absolue au second tour. Même ligne chez les communistes et les écologistes qui dénoncent un candidat trop clivant. Jean-Luc Mélenchon assure pourtant pouvoir battre Marine Le Pen ou Jordan Bardella à plate couture. Mais pour l'instant, les sondages disent l'inverse. 4e tentative pour lui et une stratégie assumée, y aller seul, quitte à faire perdre la gauche.
Il sera 11h54 dans quelques secondes, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment la participation de Paul Sexas qui explose sur le circuit pro. Il sera au départ du Tour de France 2026.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Les élections provinciales approchent et vous souhaitez voter par procuration ? La ville de Nouméa simplifie cette démarche pour tous les Nouméens.
Venez vous faire accompagner pour remplir votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr. Vous avez 2 options sans rendez-vous.
Déplacez-vous directement à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 7h30 à 16h ou montez à bord du Proxibus. Il se déplace dans les quartiers du lundi au vendredi de 8h à 16h. Rendez-vous sur le site de la ville afin de connaître son emplacement exact.
Pour être sûr de pouvoir voter par procuration, n'attendez pas le dernier moment. Plus d'infos sur www.nouméa.nc ou par téléphone au 27 31 15.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Oui, et du cyclisme à la une de cette page au sport. La Grande Boucle 2026 partira le 4 juillet de Barcelone pour 3 semaines. La plus grande course à étapes au monde passionne toujours autant et les supporters français n'auront sans doute Dieu que pour Paul Sexas. Le jeune prodige français qui explose sur le circuit professionnel a annoncé en effet qu'il sera bien au départ de son premier Tour de France. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Paul Sexas deviendra en juillet le plus jeune participant à la Grande Boucle depuis 1937 et le français Adrien Cento. Le prodige est venu annoncer la grande nouvelle à ses grands-parents en Haute-Savoie. La scène a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux.
En juillet prochain, j'aurai quand même une course.
C'est-à-dire, laisse-nous deviner, Tour de France.
Ouais.
La décision de Paul Sexas était très attendue car le jeune cycliste de l'équipe Decathlon CMA-CGM réalise un début de saison tonitruant. Succès au Tour du Pays Basque, victoire dans la Flèche Wallonne, deuxième place à Liège, Bastogne-Liège. Le français Paul Sexas a les moyens de faire douter l'actuel patron du peloton, le Slovène Pogacar, estime sur Europe 1 l'ancien coureur emblématique Richard Virenque.
Il y a déjà eu un duel lors de Liège-Bastogne-Liège. Sexas a tenu la roue de Pogacar dans la côte de la Redoute. Donc je pense que oui, il va y avoir un duel. Il va nous remporter une étape sur le Tour, j'en suis quasiment sûr.
Paul Sexas aura 19 ans et 9 mois lorsque le Tour de France s'élancera de Barcelone le 4 juillet prochain. C'est bien plus jeune que Bernard Hinault et Jacques Anquetil qui ont découvert la Grande Boucle à l'âge de 23 ans. Mais ces deux légendes ont remporté le Tour de France dès leur première participation.
On passe au football avec les demi-finales retour de la Ligue des Champions cette semaine. Après un match aller historique et complètement fou qui s'est soldé par une victoire du PSG 5-4 sur le Bayern de Munich. Le PSG sera en Allemagne pour le match retour jeudi à 6h du matin. Mais avant cela, demain matin à la même heure, Arsenal recevra l'Atlético Madrid dans l'autre demi-finale retour. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul, un but partout. Et puis on va terminer avec du rugby sur le territoire, Léo Fichou. La Ligue calédonienne continue sa restructuration et organise notamment une compétition de rugby à 10 seniors.
Oui, 4 équipes engagées cette saison, le CREC, le RC Mondor, l'Olympique et l'URC Dumbéa, après une première phase de championnat durant laquelle toutes les équipes se sont affrontées. Place à la finale, ce sera jeudi soir. Une finale qui opposera l'URC Dumbéa au RC Mondor. Jean-Louis Carréconde est le président de la Ligue calédonienne de rugby.
C'est un entre-deux entre le rugby à 7 et le rugby à 15. On commence déjà en début de saison à faire courir nos gens. On devrait avoir une belle finale avec deux équipes qui ont de l'allure. Le Mondor qui revient bien en forme, là déjà l'an dernier puisqu'il a gagné le championnat. L'URCD qui est toujours au même niveau. Ce sont des matchs très engagés où il y a beaucoup de courses et ils courent beaucoup. Les espaces sont là, mais il y a un peu plus de jeu devant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un mixte, c'est-à-dire jouer devant, mais aussi beaucoup courir, pratiquer un jeu d'évitement. Donc entre le jeu en percussion ou autre, ça permet de rebondir et ça crée beaucoup d'espace.
La finale du championnat senior de rugby à 10 entre l'URC Dumbéa et l'URC Mondor, c'est donc jeudi soir 19h30 au stade Simutoga de Rivière-Salée.
Merci Léo, 11h58, c'est la fin de ce journal. Mes Infomax se poursuit avec le magazine Citoyen comme tous les mardis. Nicolas Legrand et ses invités vont s'intéresser cette semaine aux enjeux de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, notamment à travers le braille. Vous les retrouvez dans quelques instants.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.